Merci Virginie à la technique. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, Bernard Anthony au micro. Je suis heureux de vous retrouver. Je suis ce soir avec Jeanne Smith.
Bonsoir chers auditeurs, bonsoir Bernard.
Bonsoir Jeanne. On ne présente pas Jeanne Smith à Radio Courtoisie. Rappelons tout de même, journaliste, une des fondatrices du journal du quotidien présent jadis. Enfin, donc,
Non. Je suis arrivé 5 ans après, Bernard.
Ah, mais c'est vrai, je mêle tout ça. Mais vous avez fait tellement de choses, Jeanne. Donc, voilà, Jeanne Smith, journaliste, par ailleurs vice-présidente de la DRIF. Elle est là à côté de son nouveau président, qui est Yann Bally. Bonsoir, Yann.
Bonsoir, Bernard. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, Yann Madame Bally, le vice-président.
Yann Bally, qui m'a succédé à la présidente de la DRIF et de Chrétienté Solidarité du Centre Charlier. Parce qu'il faut bien, un jour ou l'autre, passer la main. C'est ce que j'ai fait et j'en suis très heureux. Parce que Yann est un militant et un ami de longue date. Et voilà. Donc, Richard Haddad.
Bonsoir Bernard, bonsoir chers auditeurs et bonsoir à mes deux collègues ici présents.
On ne présente pas non plus Richard Haddad, éditeur, et notamment mon éditeur, puisque cher Richard, vous avez édité de moi à ce jour 15 livres.
Oui, je ne le compte plus.
Vous ne les comptez plus.
Et bientôt, si vous me permettez,
oui,
Bernard,
je vous permets.
J'annonce aux auditeurs de Radio Courtoisie que je publie les mémoires de Bernard Anthony, qui sont en cours de travaux là, en ce moment. Et donc, Bernard, après combien d'années, je ne sais plus, là aussi, on ne compte plus vos années de loyaux services, j'allais dire, en politique.
Après plusieurs dizaines d'années.
A fini par écrire ses mémoires. Et donc, on en parlera dans une autre émission. Mais sachez qu'au mois d'avril, paraîtront les mémoires de toute une vie de politique de Bernard Anthony.
Et pas
que politique, d'ailleurs.
Et je parle beaucoup des mémoires des autres. Je parle de moi un peu, mais beaucoup quand même.
Vous êtes un témoin.
Je suis surtout un témoin. Et je fais commencer cela à l'école maternelle. Mais on en parlera
dans une autre émission.
Alors ce soir, donc, en premier lieu, l'assassinat de Quentin Derenke. Là, je ne sais pas qui veut en parler, il y a eu sûrement beaucoup d'émissions, mais on est sur un événement qui est, je pense, très caractéristique de la dégradation qui s'est accentuée au fil des années, au fil des mois. Il y a eu des moments où, certes, on a vu du terrorisme d'extrême gauche, mais ça s'était un peu apaisé. Mais là, donc, c'est l'assassinat. Je suis content que dans le Figaro, Guillaume Tabar, je cite ça parce qu'après tout, c'est un grand quotidien, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit dedans, mais c'est quand même, il y a de belles plumes. Et Guillaume Tabar a dit « ce sont des salopards ». Et donc, il y avait un mot, ce sont des salopards. Et là, je pense que parmi vous, qui veut prendre la parole, Yann Bally.
Oui, écoutez, je crois que là, on le sait, les discours de haine répétés soir et matin par les cadres de l'EFI, par Jean-Luc Mélenchon, la nazification de l'adversaire, la fascisation de l'adversaire, la chosification de l'adversaire, eh bien, hélas, ne pouvait conduire qu'à un drame comme celui-là. Ce qui est incroyable, c'est que jusqu'à ces dernières heures, et encore maintenant d'ailleurs, M. Mélenchon et ses amis et les cadres de LFI ont nié les évidences. En fait, à force de fréquenter les islamistes, ils leur ont emprunté la taqiya. Je crois qu'il faut rappeler quand même les paroles d'il y a quelques jours de M. Coquerel. Nous ne sommes pas impliqués ni de près ni de loin dans ce qui s'est passé. M. Bompard, patron du parti LFI, la France insoumise ne porte aucune responsabilité dans cette affaire. Le mouvement de la Jeune Garde a été dissous, donc je vois difficilement comment il aurait pu intervenir dans cette affaire. Là, il prend les gens pour des imbéciles, puisque certes, un décret de dissolution avait été pris contre la jeune garde, mais le Conseil d'État en avait retardé l'exécution.
Non, mais même si vous, pardon Yann, mais même si vous dissolvez, ce n'est pas parce qu'on dissout une organisation telle que la jeune garde, pardon, alors je vous laisse...
J'allais y venir, alors souvent on entend il faut dissoudre, on sait très bien que quand on dissout un mouvement, il se reforme sous un autre nom, avec d'autres cadres. En fait, il faut, au regard de ce fait, de ce drame de l'assassinat de Quentin et de tout un tas d'autres faits, de l'organisation de ces mouvements. Je rappelle que dans le même temps, on a une tentative d'attentat contre un ingénieur nucléaire dans l'est de la France. Il faut classer cette mouvance dans la catégorie des organisations terroristes et traiter ces mouvements et ces groupuscules et leurs cadres et leurs militants comme des terroristes. Voilà, la dissolution ne changera rien. Il faut simplement maintenant employer les gros moyens face à ces gens-là. Tout cela ne vient pas comme ça, n'est pas arrivé. Je me souviens, je vais raconter un souvenir personnel. Lorsque j'étais étudiant en droit à Nancy, avec quelques amis, nous avions infiltré une réunion de Ralph Ron, qui était les ancêtres de la jeune garde. C'était une réunion de travail avec les cadres locaux, qui étaient là pour la plupart des membres de la Ligue communiste révolutionnaire d'Alain Krivine. Et la discussion qu'ils avaient, c'est si jamais les manifestations et les actions associatives ne fonctionnent pas et que le Front National notamment continue de progresser électoralement, est-ce qu'il va falloir employer la violence ? La réponse était évidemment oui, mais pas pour l'instant, mais il faut s'y préparer. Effectivement, si ces gens-là arrivent aux portes du pouvoir, il faudra employer la violence. Et le patron de l'époque de Ralph Ron en Meurthe-et-Moselle disait évidemment, c'est pas à un trotskiste comme moi qu'on va dire qu'il ne faut pas se servir de la violence quand c'est nécessaire. Donc tout ça vient de loin, tout ça est préparé. Bernard pourrait parler de 1968, des actions des gauchistes, etc. Voilà, le drame est arrivé. Ayons une prière en ce jour de mercredi décembre pour le repos de l'âme de Quentin, une prière pour sa famille, parce que pour ses amis, c'est un drame et maintenant il va falloir en tirer les conséquences. Et aujourd'hui, on sait très bien maintenant que non seulement la jeune garde est impliquée jusqu'au cou, puisqu'on en est à deux assistants parlementaires de Raphaël Arnaud qui sont en garde à vue, et je crois que même qu'il y a un stagiaire qui a également été mis en garde à vue. Donc la jeune garde, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon l'année dernière, est indissociable de LFI. Donc LFI est impliqué, Jean-Luc Mélenchon est impliqué, et je crois qu'il faudra aussi, au-delà des protagonistes de l'affaire ou de ceux qui ont tenté de les aider à fuir, il faudra aussi aller chercher les donneurs d'ordre. Mais je crois que Gilbert Collard a donné quelques indications ce matin sur CNews.
Oui, alors...
Richard Haddad.
Moi, je trouve... Les dirigeants de LFI essayent d'assassiner Quentin une deuxième fois. Parce que non seulement il est mort à cause d'eux, en tout cas, ils ont une responsabilité lourde, morale au minimum, voire plus, on verra, mais ils essaient de le salir. Après l'avoir tué, ils essaient de le salir.
C'est la vieille tradition révolutionnaire, génocide, puis mémoricide.
Voilà. Et donc, ils ont un culot monstre, mais ça, c'est pas nouveau. Alors, le Figaro, par la plume de Guillaume Tabar, les a traités de salopards. Et pour une fois, je vais être d'accord avec le Premier ministre, ça m'arrivera presque jamais. Il a traité LFI d'ignoble. Et c'était le bon mot. Parce que pourquoi il les a traités d'ignobles ? Parce que Madame Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, était en train de prendre la parole pour nous expliquer que c'est eux la victime, que c'est LFI la victime. C'est exactement le terme, c'est ignoble.
On est dans l'inversion radicale,
absolument,
totale.
Voilà. Ces gens-là viennent nous expliquer qu'ils sont attaqués, qu'ils étaient en train de se défendre, et que finalement, voilà. Et donc, ils essayent en tout cas de l'assassiner une deuxième fois. Alors, ils s'en mêlent un peu les pinceaux tout de même, parce que Yann a évoqué leur ligne de défense. Ce n'est pas qu'ils nous prennent pour des imbéciles, ils mentent comme des arracheurs de dents. Ils mentent effrontément. Vous avez Emmanuel Bompard sur les plateaux télé qui vous dit, mais non, Monsieur Arnaud n'a jamais frappé quelqu'un. Il a été condamné parce que il est en train de défendre des pauvres LGBT. Et il vous dit qu'il n'a jamais dit à une jeune fille, je vais te mettre une balle dans la tête. Mais on a la preuve. Et ils mentent. Et ils ont toujours, malheureusement, la complaisance de beaucoup de journalistes. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette heure-là, à laquelle tout on à parle à la radio. Il y a encore des journalistes qui sont complaisants, qui leur donnent la parole, qui ne leur disent pas leur vérité en face, donc ils sont très indulgents avec eux, voire plus. Donc voilà.
Vous cherchez des historiens et des spécialistes encartés au parti ou dans une autre secte gauchiste. On a vu sur les plateaux de télévision des historiens, je ne sais pas d'où ils ont eu leur diplôme, mais bon,
l'obsession de beaucoup de journalistes. L'obsession de beaucoup de journalistes jusqu'à 7 heures. Et je ne parle pas que des journalistes de France Télévisions ou de Radio France ou du service public, même des chaînes privées. Leur obsession, c'est de nous expliquer que tout se vaut, que c'est les extrêmes entre eux, que voilà. Juste avant de venir à la radio, à Radio Courtoisie, j'entendais un journaliste de BFM TV nous expliquer que Quentin est mort suite à la RIX. Non, ça y est, on reprend l'affaire Thomas.
Le mot de Rix.
Le mot magique. En fait, ils sont très dérangés que ça soit l'extrême gauche, voilà. Donc bon. Et donc, mais tout ça, Yann a rappelé son anecdote à Nancy. Moi, Ralph Ron, je les ai connus parce que moi, toute cette affaire m'a ramené 30 ans en arrière parce que je comme beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie le savent déjà, peut-être. J'avais fondé avec Régis de la Croix-Vaubois le Cercle National des étudiants de Paris. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces histoires, mais il se trouve que j'étais élu. Je m'étais présenté à des élections à la Sorbonne et j'étais élu. Et le fait que je sois élu a mobilisé ces groupuscules de Ralph Ron et de Scalp, qui sont les ancêtres de la Jeune Garde, tous les jeudis, j'étais harcelé, je ne pouvais pas aller en cours, etc. Tous les jeudis, notre tête, moi et mes camarades, étaient mis à prix. Donc tout ça n'est pas nouveau, mais ce sont aussi... Yann parlait de... Alors, il n'est pas le seul. Beaucoup ont évoqué l'idée de que ces groupuscules, ces milices, pardon, il faut appeler les choses par leur nom, ces milices soient classées terroristes. Alors je vois certaines personnalités politiques ou certains journalistes ouvrir grand les yeux, mais comment ? Ils ne sont que les descendants d'Action Directe. Bernard a rappelé au début de cette émission les années. Il a dit ça fait un moment que ça s'est un peu calmé. Ce sont les descendants d'Action Directe, donc des criminels comme eux. Action Directe est une organisation aussi qui descend de tous les groupuscules des années 30. Enfin bref, tout ça, c'est une continuité qui va de Robespierre jusqu'à nos jours. On ne découvre pas aujourd'hui que l'extrême gauche tue. C'est le fondement de leur idéologie. Et donc, et puis je rappelle aussi que l'attentat de la Villa Poirier, dont a été victime Jean-Marie Le Pen en 1976, a été revendiqué. Alors, on n'a jamais attrapé les commanditaires, mais ça a été revendiqué par un groupe, tenez-vous bien, antifasciste. Donc tout ça, tout ce vocabulaire n'est pas nouveau. Et donc, qui pose des bombes ? Parce qu'on nous dit, ah oui, la violence est des deux côtés. Non, qui pose des bombes ? Qui assassine ? Qui kidnappe ?
Et quelquefois, on croit se pincer quand on entend, je ne le citerai pas par charité pour lui, mais un général sur une chaîne dans laquelle il y a quelquefois d'autres généraux plus brillants que lui, heureusement. Mais celui-là, il a trouvé moyen de dire avant-hier soir qu'il faudrait dissoudre et l'extrême droite et l'extrême gauche. Là, il avait inventé, il était très fier de sa formule. Voilà.
Voilà le relativisme. C'est gravissime, ces choses-là. Parce qu'en fait, on relativise lorsqu'on fait ça. On met tout le monde dans le même sac, etc. Alors, non, on peut pas. Alors, vous savez, dernière chose, dernier mot sur ce sujet. J'entends à chaque fois que, oui, ils sont venus, enfin, que ça soit LFI ou d'autres, d'ailleurs, des gens qui sont pas LFI, disent, ah oui, mais il y a l'extrême droite qui est venue manifester contre. Oui, on a encore le droit en France de manifester avec une banderole. Voilà. Et donc, ils nous ont attaqués. Non, il n'y a qu'eux qui attaquent. Et puis, j'entends des journalistes, aujourd'hui même, nous dire, parce qu'il y a une vidéo qui est sortie, où on voit une bagarre. Ils disent, ah, mais voilà, tous les deux, encore heureux qu'on se défende. Donc, ils disent, ah oui, il y a des militants nationalistes qui sont en train de se bagarrer avec eux avant que la mort de Quentin. Oui, quand on est attaqué, nous, on se défend. Voilà. Et donc, il y a une différence entre ceux qui viennent agresser les autres parce qu'ils ne supportent pas, qu'ils ne pensent pas comme eux, et ceux qui ne se laissent pas faire. Parce qu'on est français, nous, on se défend.
Alors, il faut citer une petite perle dans cette affaire, ou plutôt une petite crotte. C'est la députée et les filles Alma Dufour, ouais, qui hier, à 18h47, quelques minutes avant les arrestations et les gardes à vue, 5 minutes, disait, je crois que c'était sur BFM TV, « Je mets mes deux mains à couper que le collaborateur de Raphaël L. Arnaud n'a rien à voir avec cette histoire. » Ah oui, il n'y en a pas un, il y en a deux et peut-être même trois. Et ce qui fait dire à notre ami Gilles William Goldnadel en commentaire sur le réseau X, j'ai le pénible devoir de vous annoncer qu'Alma Dufour est devenue manchot. La jeune garde organise une quête pour lui offrir deux crochets.
Alma Dufour.
Félicitations à Gilles William Goldnadel parce que on est sur quelque chose de tragique, mais quelquefois, des gens comme Alma Dufour, il y a tout le sarcasme avec lequel on peut répondre. Quoi.
Alma Dufour, élue députée grâce à Édouard Philippe, pas grâce au PS ou à Europe Écologie Les Verts. Alma Dufour, donc, dont vous venez de citer les absurdités, parce qu'elle n'est pas à sa première
elle
absurdité.
Première,
hein.
Oui,
c'est
oui.
Une perle, elle, hein, dans le sens de bon, je ne vais pas aller plus loin. Mais elle a été élue grâce à Édouard Philippe. Et là, j'en profite pour rappeler les responsabilités des uns et des autres. Parce que là, c'est bien gentil, des personnalités politiques de la Macronie, du centre et d'autres, nous expliquent que oh là là, c'est scandaleux, LFI c'est irresponsable et tout. Mais eux aussi sont responsables.
Bien sûr.
Qui a fait élire ces gens? Qui a appelé à voter pour eux, Gabriel Attal? Et puis, il y en a d'autres qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec Gabriel Attal dans ce mouvement ensemble, mais qui n'ont pas démissionné, en tout cas. Hein, je fais allusion à Maud Bréjon, qui est porte-parole du gouvernement, qui vient de dire tous ceux qui ont mis un bulletin LFI dans l'urne ont une responsabilité. Elle ne croit pas si bien dire. Enfin, il faut qu'elle commence par faire le ménage chez elle, parce que son parti a appelé à voter LFI pour faire des barrages. Leur barrage est ensemble. Leur barrage, il est couvert de sang, leur barrage.
Effectivement. Le...
Bon. Merci Richard. Alors, on va aborder un autre sujet, quitte à revenir si une réflexion nouvelle vous vient. Donc, sur l'affaire Epstein, et en France, cette affaire Epstein, qui donc porte le nom aussi de Jacques Lang. Alors là, je pense que...
Entre autres,
ah oui, mais...
On a quand même un diplomate du Quai d'Orsay qui est mouillé aussi.
Je vous laisse parler, cher Richard.
Pardon.
Sur l'affaire Epstein, et donc sur Jacques Lang aussi, parce que là, je dois dire tout de même, je me souviens... Quand j'ai compris, mais il y a longtemps, très longtemps, qui était Jacques Lang, c'était monstrueux. Et j'avais parlé à l'époque de la contre-culture Raptad Lang. Eh bien, là, Jacques Lang a fait fortune. Ça a été un escroc donc, continuel. Mais enfin, donc, après tout, il s'en est bien tiré jusque-là. Donc, il a, je ne sais plus quel âge... Mais vous connaissez un tout petit peu, Richard.
Un peu, mais pas plus que vous, Bernard, parce que vous avez une carrière politique, vous étiez député, et vous connaissez tout ça.
Mais je n'ai jamais fréquenté Jacques Lang dans une assemblée. Je ne me souviens pas. Non, il n'était pas au Parlement européen.
Donc, en tout cas, vous l'avez combattu.
Je l'ai combattu d'arrache-pied.
Quand il était ministre de la Culture.
Et là, c'était concernant quelqu'un comme François Mitterrand. Donc, qui avait, lui, de la culture. Hein, et donc, qui n'était pas un enfant de cœur, c'est certain. Mais enfin, c'est lui qui nous a menés, ça fait partie. Parce que certains disent quelquefois, ça m'hérisse le point, que François Mitterrand était le dernier des hommes de droite. Mais de qui se moque-t-on? Hein, il a certes fréquenté des hommes de droite, il a fréquenté tout le monde, mais enfin, il était dans le cynisme.
C'est lui qui a fondé SOS Racisme, qui a promu l'immigration, qui a nommé Jacques Lang pour détruire la culture française. Oui, enfin, comme homme de droite, on peut faire mieux. En tout cas, Bernard, Jacques Lang, bon... En fait, on l'avait un peu oublié, Jacques Lang. Hein, donc, ministre de la Culture, c'est Jacques Lang. Je fais un peu un bref aperçu comme ça. C'est la pyramide du Louvre, les colonnes de Buren. C'est celui qui nous a expliqué que le tag était un art.
Que tout valait tout.
Que tout valait tout, exactement. C'est que tout art, tout se vaut. Tout se vaut. C'est la promotion du lait. C'est ça, Jack Lang. Et puis Jack Lang, c'est aussi l'escroc. C'est celui qui... Et ça, on l'avait remarqué, et dans le milieu journalistique et politique, tout le monde le sait. C'est celui qui s'habille comme le Shah d'Iran et le roi du Maroc, alors qu'il est ministre socialiste et qui ne paye jamais ses vêtements. Alors, on a empêché François Fillon de pratiquer... On l'a pas empêché, mais en tout cas, on a fait en sorte qu'il soit pas élu pour 2-3 costumes. Monsieur Lang a 500 000 euros de factures chez Smalto, non payées, bien évidemment. 500 000 euros de costumes. Tout le monde le sait, il n'a jamais eu de contrôle fiscal, il n'a jamais eu d'enquête de quelques parquets financiers que ce soit. Des factures de restaurants, mais colossales. 41 000 euros pour le restaurant Noura, le restaurant libanais qui a une succursale à l'Institut du monde arabe. Des dizaines de milliers d'euros dans d'autres restaurants. En fait, ce monsieur touchait un salaire très généreux, mais il ne dépensait jamais...
10 000 euros, mais...
Rien que 10 000 euros, rien qu'à l'Institut du monde arabe.
À l'Institut du monde arabe.
Oui, on ne parle pas de ses salaires de ministre, etc. Voiture, chauffeur, jamais de... tout le temps dans les restaurants sans jamais dépenser un centime, des vêtements de prince gratuitement, et son avocat a le culot de nous dire il y a quelques semaines, lorsqu'un journaliste lui pose la question sur la facture de ses costumes, et il lui dit mais en fait c'est normal qu'il les ait gratuitement parce qu'il fait de la publicité pour le couturier. Enfin, ces gens-là... ça passe.
Mais il me semble que tout ça en droit fiscal, ça s'appelle des avantages en nature.
Absolument.
Et c'est soumis à la fiscalité.
Mais bien sûr.
Il va falloir que le fisc s'intéresse. Alors hélas, il n'y a que 4 ans de... Normalement, on ne peut revenir que sur...
Trois ans.
Mais au moins, si le fisc pouvait s'occuper des 3 dernières années des revenus
bien, oui.
déguisés de Jack Lang, ça serait une bonne chose les finances de l'État.
Mais c'est normal d'ailleurs, parce que dans ce cas, si c'était pas le cas, eh bien personne ne verserait de salaire, on vous verserait des cadeaux, et puis personne ne paierait d'impôts. Vous comprenez parce que quand je dis ça, parfois mes interlocuteurs sont toujours étonnés. Ah bon, on doit payer des impôts sur les cadeaux. Évidemment, si vous avez un cadeau à 50 euros, on va pas payer d'impôts dessus. Mais si vos cadeaux, ce sont des centaines de milliers d'euros, c'est un peu trop facile. Et donc ces gens-là bénéficient d'avantages en nature extravagants. Et puis, ils font la morale au monde entier. Et alors là, on peut peut-être évoluer vers le Bernard sur le volet sexuel malsain de Jack Lang. Roger Olyndre, autrefois, Yann Bali, je pense que vous vous souvenez de cette affaire. Roger Olyndre, il y a 30 ans, 40 ans, avait évoqué ça.
Et même plus récemment, moi je l'ai entendu à Saint-Germain-en-Laye, c'était pour les municipales de 2001, et il avait récidivé, si on peut dire, quelques années plus tard, au milieu des années 2000. Oui.
Il avait fait une déclaration, Jack Lang, récemment, dans laquelle il justifiait la pédophilie. C'était dans les années 90. Il l'a justifié, il a récidivé en expliquant dans un texte écrit qu'on devrait réfléchir sur le sujet. Réfléchir, développer un peu pour voir pourquoi pas. Enfin, si c'est pas intéressant intellectuellement...
Réfléchir à la sexualité infantile.
Exactement, voilà. C'est le terme exact. Merci Yann. Donc, il n'est pas à son premier coup. On découvre Epstein, etc. Mais ça fait très longtemps que l'on sait que Jack Lang, ces sujets-là l'intéressent, il baigne dedans, etc. Et puis, juste pour conclure... Il n'y a pas que lui, il y a sa fille. On apprend que sa fille, d'abord, elle a reçu un héritage qu'elle a refusé, super, mais d'Epstein, de 5 millions d'euros. Rien que ça, 5 millions d'euros. Pourquoi Epstein lui donne 5 millions d'euros? Bon, elle l'a refusé, pourquoi? Parce que il était déjà, quand elle a reçu l'héritage, Epstein était déjà condamné. Et on apprend qu'elle a fondé une société offshore avec Epstein, dans une île, un paradis fiscal. Donc, je ne sais pas si les auditeurs de Radio Courtoisie tous savent ce que c'est qu'une société offshore. Alors, ce n'est pas illégal, nous dit-on. Oui, bien sûr, ce n'est pas illégal. Mais c'est une fuite fiscale. C'est-à-dire, on fait une société où on ne paye jamais d'impôts. On peut la faire. Ce n'est pas illégal à condition de la déclarer au fisc français. Or, ça n'a pas été déclaré. Et pour faire quoi? Pour promouvoir des œuvres d'art. En fait, ça s'appelle du blanchiment d'œuvres d'art, ça. Et donc, voilà ces bons socialistes moralisateurs, comment ils fonctionnent dans leur vie de tous les jours. Ils vivent dans le luxe absolu, ils font des sociétés dans des paradis fiscaux pour fuir le fisc français et reblanchir l'argent de pédophiles.
Et alors, je reviens sur cette réflexion qu'il y a quelques années, Jack Lang a tenté de relancer, puisqu'il l'avait déjà lancé à la fin des années 70, la réflexion sur la sexualité infantile. En fait, ces gens veulent justifier leur perversion par des théories, des études, des choses un peu pédagogiques. Le drame, c'est que ça filtre jusque dans l'éducation nationale, puisqu'on a maintenant des programmes d'éducation à la sexualité dès l'école primaire qui sont des choses absolument scandaleuses. Et les gamins sortent traumatisés de ça. C'est-à-dire que leur idéologie néo-68arde et à la limite de la promotion de la pédophilie pénètre jusque dans les cours des enfants qui sont soumis à l'éducation nationale. C'est absolument scandaleux. Une anecdote, encore une anecdote nancéenne, décidément, concernant Jack Lang. J'ai connu le doyen Paul Jacquet. Paix à son âme, il est décédé. Le doyen Paul Jacquet était le doyen de la faculté de droit de Nancy, alors que Jack Lang était maître de conférence à l'époque. Et je me souviens d'un repas où il nous a raconté les frasques de Jack Lang quand il était prof à l'université de Nancy. Le doyen Paul Jacquet disait, quand François Mitterrand a été élu en 81, on a été très triste pour le pays parce que la gauche arrivait au pouvoir avec le Parti communiste et c'était catastrophique, mais on a été très heureux parce qu'il nous a débarrassé de Jack Lang à la faculté de droit de Nancy, parce qu'on n'en pouvait plus de ces frasques dont vous imaginez la teneur.
Jeanne Smith.
Je crois qu'il faut revenir aussi un peu sur Jeffrey Epstein lui-même, parce que cette affaire est absolument faramineuse, fantastique. Voilà un gars qui, on ne sait pas trop comment, devient milliardaire après avoir été prof de mathématiques tellement nul qu'il a été viré. Et qui se rapproche des Rothschild, qui a un pied, il doit avoir beaucoup de pieds dans tous les auprès de tous les services.
Il a autant de pieds que la Dastali a de bras.
Voilà, et voire davantage. Il est proche d'Ehud Barak, du Mossad, mais il est proche du KGB, mais il est impliqué jusqu'au cou avec le prince Andrew, qui lui-même a des relations avec la Chine, qui vend des secrets d'État et des secrets d'industrie à la Chine. Il est proche de Bill Gates, qui quand même dirige le monde quand il y a un virus qui se pointe. Il est proche d'un Börje Brende, qui est aujourd'hui à la tête du Forum économique mondial. Il est réellement avec tout le monde.
Prix Nobel, le prince norvégien, le prix Nobel.
Voilà, Noam Chomsky, c'est l'extrême gauche, Richard Dawkins, qui est... enfin, tout ce monde-là, c'est la liste n'en
Bill
finit
Clinton.
Pas. Bill Clinton, la liste n'en finit pas. Et Epstein tombe. Il tombe. On a sa peau, finalement, puisque d'une part, il est condamné. Ensuite, il est emprisonné. Et pour finir, il est pendu. Enfin, on le retrouve pendu. Et il est assez difficile de croire qu'on ne l'a pas suicidé.
D'autant plus, Jeanne, qu'il a un de ses complices en France qui aussi s'est pendu à la santé.
Mais oui,
ça
oui.
fait trop de pendaisons en prison,
je trouve. Il y a beaucoup de morts dans ce pays.
Sans compte, bon, on parle aussi, on pourrait revenir sur Amschel Rothschild, qui lui aussi, ben, il commençait à mettre en cause certaines pratiques, et lui aussi, il a été retrouvé pendu dans un hôtel de Paris.
Rappelons aussi, qui est cité dans les dossiers Epstein, M. Descoings, qui était... le patron de Sciences Po Paris.
Qui suicidé aussi.
On a retrouvé mort dans un hôtel à New York et qui était un très proche de DSK aussi.
Absolument.
Et Epstein s'est beaucoup intéressé à l'affaire DSK. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu dans les grands médias. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges concernant l'affaire DSK.
Et DSK, lui aussi... viré de la vie politique par une malencontreuse savonnette. Alors là, on est dans le comique avec Epstein, on est dans l'infiniment tragique, dans l'exploitation des jeunes filles, des toutes jeunes filles. C'est quelque chose d'abominable. Ça a duré longtemps, tout le monde était au courant. On l'a fait tomber. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup, n'est-ce pas, du complot judéo-maçonnique. Mais Epstein, il était jusqu'au cou avec beaucoup de juifs. eh bien, il est tombé quand même, et tous ses copains avec lui. Le complot judéo-maçonnique, ça nous fait maintenant doucement rigoler. Je l'ai écrit dans Réinformation TV il y a quelques jours. Si vraiment ils sont si puissants... Ils ne seraient jamais tombés. Si la haute finance menait le monde, on ne serait pas en train de tout rendre transparent, comme on dit. On est en train de changer de logique. Il faut voir les choses en face. Il y a les gens qui tombent aujourd'hui et qui ont peut-être été entraînés selon les bonnes vieilles méthodes des services où on vous compromet et après on sort les films. Il y a quand même énormément
le compromat
exactement.
Il a joué à plein, pardon
Bernard.
Richard, j'ai pas abusé juste à présent.
Pardon.
Donc qu'est-ce que je voulais dire, oui, le compromat cher à la stratégie marxiste-léniniste, cher, qui fonctionne toujours en Russie, parce que vous parlez des pendus, des défenestrés, mais ça fonctionne toujours dans la Russie de Poutine. Qu'est-ce qu'il y en a du compromat, des pendus et des défenestrés? Et certains ne veulent pas le voir, ça. Donc on est en face
d'une affaire énormissime.
Je constate quand même qu'il y a de tout. Vous venez de
Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui est vraiment sur un siège éjectable parce qu'il a nommé un ambassadeur qui était lui aussi. Lui, il était gay. Donc il dit « Oh, moi, j'ai rien à voir avec Epstein. La preuve, c'est que je suis gay. »
Et alors
bah,
on
peut
être gay et pédophile, vous savez.
Il est en plein dedans. Et Keir Starmer était pas... On a démontré qu'il était parfaitement au courant. Alors maintenant, tout ce monde est sur des fauteuils branlants. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ce qui est clair, c'est que le grand pouvoir, celui qui dirige, ce n'est pas celui que certains complotistes désignent à l'envie. On est dans une autre dimension.
Il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que tous les donneurs de leçons de morale de la bonne gauche bien pensante, pas tous, mais enfin une grande partie, disons, c'est la grande partie de la liste Epstein, c'est quand même des gens qui sont plutôt de la gauche caviar. Hein. Donc, c'est Clinton que l'on voit dans un jacuzzi avec des filles dont les yeux sont cachés par un bandeau noir. C'est donc, si on prend les États-Unis, par exemple, le premier homme politique de premier plan, à savoir un ancien président des États-Unis, c'est Clinton. Et Clinton, aux États-Unis, c'est le symbole de la morale...
De gauche.
En France, c'est Jack Lang. Etc. Donc, tout de même, cette affaire, tous ces donneurs de leçons, quels qu'ils soient, l'international des donneurs de leçons, se retrouvent un peu quand même éclaboussés par cette affaire Epstein. Et puis, peut-être peut-on parler de. Vous avez cité le Premier ministre britannique avec un de ses collaborateurs, qui était, enfin, ou le diplomate qu'il a nommé. Mais nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, on apprend que le Quai d'Orsay. En fait, on a un diplomate qui était plus que mouillé dans cette affaire et qui a été juste... Moi, je suis... Parfois, je n'arrive pas à croire ce que j'entends et ce que je lis. Nous apprenons que le Quai d'Orsay l'a juste fait fuir des États-Unis. C'est-à-dire notre diplomate qui se trouvait, je ne sais plus, corrigez-moi, Jeanne, si je me trompe, c'était New York ou... En tout cas, il était aux États-Unis.
Il était à New York.
À New York. Il y avait des soupçons d'avoir participé à des choses pédophiles. Donc, on l'a attrapé par des échanges de mails et des choses comme ça, des images probablement. Et on apprend qu'il a fui par le Canada et que c'est le Quai d'Orsay qui l'a fait fuir. Il l'a couvert. Et donc, il a changé de métier maintenant, mais il n'a jamais été...
Il est directeur. Hein. Il est suspendu, mais il est toujours directeur international d'Enedis.
Oui, enfin, je ne suis pas sûr qu'il soit suspendu. Moi j'ai lu qu'il était... Il a pris congé. Vous savez, c'est pas tout à fait la même chose. Quand vous êtes haut fonctionnaire, vous pouvez prendre congé et aller dans le privé. Donc en fait, il n'a jamais été vraiment inquiété, alors qu'on sait parfaitement de quoi il est ressorti.
Il y a quand même quelque chose qu'il faudrait dire au sujet de l'affaire Epstein. Epstein, c'est que...
Epstein ou Epstein
justement,
C'est
selon, j'ai
la
entendu les deux.
Que vous êtes
j'ai
nous
entendu
éclairer.
Les deux, justement, et je n'ai pas vérifié, c'est autant pour moi. Mais il y a une gigantesque hypocrisie en même temps, parce que aujourd'hui, avec l'éducation sexuelle partout, qui est promue par l'ONU, qui est promue par tout le monde, qui dit aux jeunes, ben, faites tout ce que vous voulez, faites-vous plaisir, amusez-vous bien. Des enfants en maternelle, ben, ils ont une sexualité aussi qui doit s'exprimer. Et tout cela, c'est à tire continue, à jet continue cette histoire. Mais alors là où ça ne va plus, si vous avez deux gamins, de 15 ans qui fricotent ensemble, ça ne pose strictement aucun problème. Au contraire, on les y encourage. Mais ayez un majeur avec un mineur, alors là, tout d'un coup, tout éclate. Vraiment, il y a là une espèce de morale à éclipse. Qui est fantastique et qui est complètement mise en œuvre contre ces personnes, contre Epstein et les autres, mais qui peut être enseignée. C'est une lentille morale, celle-là, elle peut être enseignée à nos enfants sans aucune difficulté. Au contraire, ça devient obligatoire. Alors, comprenne qui pourra. Moi, je note quand même que Epstein a écrit dans un courriel à Steve Bannon, qui lui aussi est jusqu'au cou dans cette histoire, et qui, pendant qu'il conseillait Trump, en même temps fricotait et faisait du lobbying pour qu'il soit expulsé du pouvoir en 2018, c'est amusant de le voir, Epstein écrit à Bannon « Je préfère ». Il cite un poète anglais et son grand poème « Le paradis perdu »« Je préfère régner en enfer que de servir au ciel ». Voilà, je crois que tout est dit.
Il y a comme ça des poèmes de Karl Marx que j'avais lus d'ailleurs devant Notre-Dame lors de notre grande journée d'amitié française sur le communisme, le satanisme de Karl Marx. Et là, je suis en train de me demander si je ne vais pas écrire quelque chose sur quand même le grand coordonnateur de cela. Moi, je pense que je sais qui c'est le grand coordonnateur. C'est celui que l'on appelle dans l'Évangile le prince de ce monde. Et voyez-vous, là, quelqu'un comme Epstein, quelqu'un comme Karl Lang,
Jack Lang. Toutes nos excuses à notre ami Karl Lang.
Mon pauvre Karl, qui est un grand ami. Mais c'est parce que on n'a pas encore parlé de Karl, on en parlera une autre fois, ou on le fera venir, mille excuses. Donc je parle de Jack Lang. Mais là, il y a une hiérarchie véritablement démoniaque. On ne peut pas expliquer le mal comme ça s'il n'y a pas une explication métaphysique. Là, je pense que le prince de ce monde s'en donne à cœur joie en ce moment, donc avec à la fois tout ce que l'on est en train d'observer, les guerres, enfin, voilà. Donc, Jeanne, on vous suit parfaitement sur ce que vous disiez. Autre dossier. Bon, écoutez, là, on va en venir une actualité importante, c'est celle qui est votée aussi cyniquement à l'Assemblée nationale sur ce qui est appelé pudiquement l'aide à mourir. Donc là, attendez, on me prévient à la technique qu'il faut laisser un peu de place à M. Bobineau. Alors, chers auditeurs,
vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, chers auditeurs, donc nous en étions à l'affaire Epstein. On aura sûrement en reparler parce qu'elle est tentaculaire, elle est absolument fantastique. Et moi, je ne l'interprète guère que avec l'analyse qu'il y a un grand coordonnateur, c'est le prince de ce monde, et il y a une hiérarchie démoniaque. Donc là, on a abordé des démoniaques numéro un, et puis d'autres un peu moindres. Enfin, mais je pense que cette affaire-là n'est pas terminée, qu'on va voir surgir sans cesse un peu plus de ramifications, d'abominations. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jeanne.
Oui, je pense que tout cela n'est certainement pas terminé. Et lorsqu'on aura fini d'éplucher tous ces dossiers qui sont faramineux, eh bien, il restera plus grand monde de fréquentables, je crains. En tout cas, parmi ceux qui paradent à la télévision.
Alors, une auditrice nous dit, merci madame d'ailleurs, je suis germanophone et je peux dire que le nom de cet abominable individu se prononce Epstein, prononciation allemande.
Ça me paraît logique.
Bon, voilà, et comme vous êtes vous aussi une grande spécialiste des langues, voilà. Alors, nous en venons maintenant à l'actualité sur l'euthanasie, sur l'aide à mourir, sur les soins palliatifs. Là aussi, ce débat à l'Assemblée nationale qui n'honore pas tous les députés de cette Assemblée.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Alors, on avait eu la surprise, je ne sais pas, je n'étais pas malheureusement là à la dernière émission. Le vote du Sénat était déjà intervenu, je pense, que lors de la dernière émission. Le Sénat qui avait vidé la loi Falorni de sa substance en enlevant tout ce qui concernait finalement une aide à mourir telle qu'elle la veut, à savoir suicide assisté ou euthanasie légalisée.
Jeanne, je me permets de vous interrompre. Sur le vote, oui, du Sénat, il faut être très méfiant. Le Sénat nous a habitués ces dernières années voter dans le bon sens pour faire un coup d'éclat et ensuite à se ranger et à se rallier à la pensée dominante. Ça a été le cas pour l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Ça a été le cas pour un certain nombre de mesures, je crois que même sur la loi immigration, ça a été le cas. Le Sénat fait un coup d'éclat, ce qui permet aux bons hommes de droite qui sont au Sénat de dire « Voyez, nous, on a fait le boulot. » Et puis ensuite, soit au Sénat, soit en commission mixte paritaire.
Il y avait... Je suis d'accord avec vous, évidemment, Yann. Cela dit, c'était intéressant ce qu'ils avaient fait. Et ça aurait pu prolonger un peu, gagner un peu de temps, prolonger les débats si le Sénat avait voté cette nouvelle version de la loi qui était somme toute assez acceptable. Pas totalement, mais évidemment bien plus que celle qu'on nous sert aujourd'hui. Ça n'a pas été fait. Ça fait que l'Assemblée a pu revenir à la version initiale qui est complètement délirante. Je suis certaine que Radio Courtoisie a consacré de nombreux programmes de nombreuses émissions à cette loi française qui va être la plus radicale de toutes si elle est adoptée, puisque non seulement elle supprime toute question de délai, elle supprime tous les garde-fous pour savoir si la personne euthanasiable ou suicidable a véritablement toute sa tête, a véritablement tous les moyens de prendre sa décision seule. Tout ça, ce sont des débats qui sont, me direz-vous avec raison, qui sont marginaux, puisque c'est le principe de l'euthanasie qui est mauvais, même si une personne demande la mort. On ne doit pas y accéder. Ça revient à un meurtre, le meurtre de soi ou le meurtre de celui qu'on aide à mourir de cette manière. Eh bien, cette loi française est la plus extrême de toutes. Elle ne prévoit guerre d'objection de conscience, seulement pour le médecin. Même les pharmaciens vont être obligés de faire ce qu'ils n'ont absolument pas le droit aujourd'hui, c'est-à-dire de vendre une potion, un poison létal à travers leur comptoir. Et au contraire, ils seront susceptibles de poursuites et de refus de fournir un médicament prescrit s'ils ne le font pas, s'ils ne vendent pas le poison qui tue. Il sera possible, si cette loi est adoptée en l'état, et tout indique, comme vous le disiez, Yann, qu'on aboutira à cela, parce que le Sénat n'a ni les moyens, ni peut-être la volonté de mettre le moindre garde-fou, avec cette loi, impossible de proposer à quelqu'un de l'aide pour ne pas se suicider, de l'empêcher d'accéder à une documentation là-dessus. Il y a là toute une sorte un nouveau délit d'empêchement de suicide assisté qui est totalement délirant. C'est du jamais vu dans le monde entier. Je voudrais signaler aux auditeurs de Radio Courtoisie plusieurs tribunes et interviews réalisées par Grégor Pupinck du Centre européen pour la justice et le droit, dont l'acronyme est anglais, ECLJ. Il a parlé de manière extrêmement forte et ferme sur tous ces excès incroyables de la loi française. Toute loi autorisant l'euthanasie est insupportable, bien sûr, mais alors la loi française dépasse absolument toutes les bornes, à tel point qu'un philosophe, un écrivain plutôt, comme Michel Houellebecq, qui pourrait paraître passer pour celui qui serait le moins susceptible de se lever contre ces choses, eh bien, pendant plusieurs années déjà, il s'est élevé pour dire que cela ne se peut pas. L'autre jour, il a déclaré « Donner la mort par compassion, j'émets un doute quant à la dignité, c'est pire que tout. » Il est complètement scandalisé par cette acceptation généralisée de quelque chose qui est totalement inacceptable, qui vise à finalement exploiter la détresse des gens, leur souffrance, et à leur dire ben, « écoutez, on va vous éliminer ». Il y a une sorte de haine de l'homme qui se manifeste là, que l'on voit, qui à mon avis, Bernard, vous parliez tout à l'heure de ce grand ordonnateur qui est le prince de ce monde, eh bien, qu'est-ce qu'il doit rigoler, s'il en est capable, devant cette volonté d'éliminer des gens parce qu'ils souffrent, de les priver de leur mort, de les envoyer dans l'au-delà avec ce crime du suicide sur la conscience. On est face vraiment à quelque chose d'incroyablement triste et laid.
La loi française est tellement catastrophique que le traditionnellement très discret et très conformiste Ordre des médecins a publié un texte, oui. et a pris position contre ce projet, ce qui est très rare.
Même enfin, le comité
de cette façon-là,
jamais
et en ces termes, oui. C'est assez exceptionnel.
Le comité des droits de l'homme de l'ONU met en garde contre l'élimination des plus faibles. Enfin, l'outrance est telle qu'elle va peut-être faire réfléchir, comme l'outrance de l'affaire de ce pauvre Quentin est tellement énorme qu'elle va peut-être faire réfléchir.
Je fais une petite parenthèse d'actualité. Oui, oui. Nous sommes en direct. Je pense qu'il est important que les auditeurs aient une information. Une radio concurrente a interrogé il y a quelques minutes le père de Jacques-Élie Favreau, c'est-à-dire l'attaché parlementaire de Raphaël Arnaud, qui est impliqué dans l'assassinat de Quentin. Et voilà ce que le père répond. Que pensez-vous de la mort de Quentin ? Je n'ai pas à en penser quelque chose. À la question d'une pensée pour la victime, il répond : pas particulièrement. A-t-il un mot pour les parents de Quentin ? Non, je n'ai rien à leur dire. Voilà. Donc, quand le procureur de la République parle d'association de malfaiteurs, c'est-à-dire que juridiquement, on va pouvoir aller chercher des responsabilités, des donneurs d'ordre et des responsables moraux de cet assassinat, je pense que la justice devrait interroger le père de cet assistant parlementaire de Raphaël Arnaud.
Ils montrent leur vrai visage, en fait, ces gens. Et tant mieux, d'ailleurs. Tant mieux. Et d'ailleurs, c'est une particularité de Jean-Luc Mélenchon et de beaucoup de responsables LFI, c'est qu'ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils ne se cachent pas. Ils ne cachent pas ce qu'ils pensent, ils disent les choses. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, hier, a répété que hier soir, après donc, l'arrestation de cet attaché parlementaire et des autres, il a rappelé que la Jeune Garde, il a porté tout son soutien à la Jeune Garde et que ce sont ses amis. Donc il persistait ici, mais Bernard le sait mieux que moi, parce qu'il paraît que c'est une tradition trotskiste-lambertiste de ne jamais admettre qu'on a commis une faute, de ne jamais renier ses amis, etc. Et donc c'est typiquement... Et donc, tant mieux que, comme ça, la France voit au grand jour ce que sont ces gens.
Merci Yann, parce que je pense que c'était bon de faire effectivement cette digression un tout petit peu. Donc, c'est parfait, on y reviendra. Mais Jeanne était encore sur Houellebecq, parce que je pense que l'engagement... Moi, j'ai vu un débat très courtois entre Houellebecq et Alain Finkielkraut. Je dois dire qu'Alain Finkielkraut n'a pas notre position, il n'a pas la position de Houellebecq, mais il est très, très travaillé, très tourmenté. Mais Houellebecq a été parfait, à la fois de sobriété et de... Il s'est engagé dans cette chose-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit et ce qu'il va continuer à dire pendant tout ce débat sur cette loi de culture de mort. Parce qu'on en revient, il faut le dire, on est là dans le domaine de ce que le grand pape Saint Jean-Paul II a appelé la culture de mort. Mais aujourd'hui, c'est un développement fantastique de la culture de mort. Jeanne.
Michel Houellebecq, justement, lui, il est écrivain, il a le sens des mots. Et il a dit, il y a une perversion des mots au départ. Les mots ne signifient plus plus rien. Et le pape Léon XIV l'a dit devant les diplomates près le Saint-Siège, on ne peut plus discuter, on ne comprend plus, les mots ont perdu leur sens. Et Houellebecq, donc, au sujet de la loi sur la fin de vie, dit « donner la mort par compassion, ça ne passe pas ». Il dit un peu plus loin « comment on arrive à faire dire aux mots le contraire de ce qu'ils veulent dire ? On a dit que les anti-euthanasies manqueraient de compassion. Comment des mensonges aussi palpables arrivent à passer ? Je n'ai pas de réponse. » Et il dénonce l'idée que cette loi serait une loi de fraternité. Il dit « mais non, c'est le contraire. Depuis quand est-ce que tuer quelqu'un, c'est faire preuve de fraternité ?» Donc là, il y a vraiment la perversion du langage, la perte du sens des mots, et peut-être l'affaire la plus extraordinaire de notre époque. Et elle a été... Bon, je reviens à une marotte. Elle a été préparée à l'école avec une mauvaise transmission de la grammaire, une mauvaise transmission de la lecture. On vide, on décervelle les gens. Ils n'y sont pour rien, mais ils sont capables de dire absolument le contraire du bien en pensant dire le bien. On en est vraiment là.
Je crois. Merci, Jeanne. Oui, il faut peut-être dire un mot. Alors, que pensez-vous, vous, Jeanne, des soins palliatifs qui auraient été l'alternative normale à cette loi de culture de mort ?
Alors,
le développement des soins palliatifs qui serait la première urgence.
C'est un peu ce que dit Michel Houellebecq. Il dit la loi de l'euthanasie, ça n'est pas le progrès. Je le cite en substance. Il dit on sait faire des poisons depuis des milliers d'années pour tuer. Aujourd'hui, on sait soulager la souffrance des mourants. C'est ça le progrès. Il a raison. Et les soins palliatifs, bien compris, les soins palliatifs qui sont réellement respectueux de la vie, ça existe. Ça peut beaucoup. Je pense que ça ne peut pas tout, mais ça peut vraiment beaucoup. Et lorsque l'Assemblée a rejeté le droit opposable aux soins palliatifs, eh bien, on écarquille un peu les yeux, à ceci près qu'un droit opposable, c'est vrai, c'est des tribunaux engorgés, oui. c'est des procédures pour rien, mettons les moyens sur les soins palliatifs, et peut-être aussi, ayons conscience, nous tous qui sommes à peu près en bonne santé, que nous avons aussi un rôle à jouer auprès de ceux qui sont malades et de ceux qui ont besoin de chaleur humaine. Ça, c'est partie du problème.
Enfin, ce débat sur les soins palliatifs et ce rejet du droit opposable, même si effectivement, juridiquement, on peut en discuter, mais enfin, fondamentalement, on comprend maintenant que soigner va devenir l'exception et tuer va devenir la règle.
C'est le cas déjà au Canada, où on vous pousse vers la mort quand vous êtes pauvre, que vous êtes handicapé, que vous êtes un vétéran de guerre et que vous n'avez pas les moyens d'aménager votre maison pour votre handicap.
Et ça, il faut le rappeler, c'est une loi de riches, parce que les riches se font soigner. Et ce sont les pauvres qu'on euthanasiera, ceux qui n'ont pas les moyens d'en aller dans les cliniques privées, de se faire soigner, parce qu'évidemment le corollaire de cette loi, si jamais elle est votée, ça va être une dégradation des soins dans le système de santé français, puisqu'on pourra tuer. Pourquoi on va s'embêter à faire vivre des gens pendant des années qui vont coûter cher à la sécurité sociale ?
C'est la théorie de Jean-Claude Martinez.
En personnel, on va tuer.
C'est une histoire d'économie.
Attendez, pas tous à la fois, chers amis. Donc, Yann, c'était Richard.
Non, je confirme. C'est la théorie de Jean-Claude Martinez,
de notre ami Jean-Claude,
à mon point de vue, moi je pense qu'il a raison. Ils inventent ce système qui leur permettra d'économiser beaucoup d'argent. Enfin bon, et puis, quant aux soins palliatifs, je rappelle, je pense qu'on le sait tous, mais tout le personnel soignant le réclame. Les professionnels de la fin de vie, etc., enfin, tous ceux qui soignent, réclament plus de moyens pour les soins palliatifs. Ils savent de quoi ils parlent, c'est leur métier. Ce ne sont pas ceux qui viennent théoriser dans les assemblées de futures lois qui en savent quelque chose. Et donc évidemment, c'est le progrès, c'est les soins palliatifs, et c'est ce que nous disent depuis des années, et encore plus ces derniers temps, les professionnels de santé.
Je reviens une petite seconde, si vous permettez, sur la remarque de la...
Non seulement nous permettons, mais nous souhaitons.
De la dame germanophone qui nous a dit, on dit Epstein. Eh bien non, en fait, j'ai vérifié. On dit Epstein, parce qu'il est américain et qu'il s'appelle comme ça. Il se appelait, si je puis dire. C'est le nom, c'est la manière dont il prononçait son nom, Epstein. Donc, bon. Allons-y pour Epstein.
Il y a toutes sortes de noms chez les démons, il est vrai.
Oui.
Alors, donc, on change de sujet. Et là, nous en venons donc à la rencontre de Laurent Nunez et du dictateur algérien Tebboune. Mais en même temps, il faudrait dire un mot aussi de quelqu'un qui a été, je crois qu'on l'avait déjà un peu évoqué, qui flirte beaucoup aujourd'hui avec le régime algérien. C'est l'inénarrable Ségolène Royal.
Ségolène Al-Malaki, Royal en arabe. Ségolène Royal, oui, on avait parlé de Ségolène Royal lors de la précédente émission de Radio Courtoisie, de la réplique, mais on avait parlé de la conférence de presse qu'elle avait tenue lorsqu'elle a pris la présidence de l'association France-Algérie. Mais on n'avait pas encore l'information de son voyage en Algérie, et on n'avait pas surtout le déroulé et les faits qui se sont produits durant son voyage. Donc effectivement, Ségolène Royal a pris la présidence de l'association France-Algérie, qui est une association qui a été créée en 1963 à la demande du général de Gaulle et dont il a confié la présidence à son ancien garde des Sceaux Edmond Michelet, dont certains voudraient
le
béatifier dans un premier temps et le canoniser. Alors le canoniser, ça peut se faire puisque il était un grand partisan de la fusillade. Il écrivait aux juges quand il était garde des Sceaux pour hâter les condamnations à mort et les exécutions des partisans de l'Algérie française. Bon voilà, l'association France-Algérie a une longue histoire. Et donc Ségolène Royal en a hérité de la présidence de cette association. Et elle s'est immédiatement posée en avocate non seulement de l'Algérie, mais en plus du régime algérien actuel. Elle a été reçue par Tebboune, elle a été reçue par le ministre de la Justice algérien, par toutes les autorités. Évidemment, son voyage, ça n'a été qu'un discours de repentance.
Le discours de repentance sur la politique de la France.
Un discours de repentance sur, voilà, la France doit se repentir, doit demander pardon, avec des choses incroyables, parlant de la grande civilisation algérienne qui préexistait avant l'arrivée de la France, disant que la guerre d'Algérie a détruit tout cet héritage. Bon, c'est absolument incroyable. Elle s'est adressée aussi aux 7 millions de Français ayant un lien avec l'Algérie. Donc ça, évidemment, je pense qu'elle prépare peut-être une campagne présidentielle, mais les termes qu'elle a employés, ça, en fait, c'est vraiment pour attiser une situation qui est déjà très tendue, avec un certain nombre de ressortissants algériens qui ont le cerveau travaillé par les discours anti-français. Et puis alors, le summum, c'est le dernier jour de sa visite. Elle est allée visiter le palais des Raïs à Alger, qui est une construction militaire ottomane, de la marine ottomane. Et c'est de là d'où partaient les navires des barbaresques. Elle a posé en photo devant des représentations de pirates barbaresques, c'est-à-dire ceux qui venaient enlever, notamment les femmes, sur les côtes du nord de la Méditerranée pour en faire des esclaves. De l'autre côté, au sud de la Méditerranée. Donc c'est absolument scandaleux. Il y aura un long article et un long dossier sur ce sujet dans la prochaine livraison de la revue Reconquête. Pour ceux qui souhaitent se le procurer, vous allez sur le site de Chrétienté Solidarité, rubrique Reconquête. Et alors on peut soit s'abonner, soit commander la revue. Mais on aura notamment d'ailleurs un article de fond sur la visite de Ségolène Royal, une interview de l'ambassadeur Driancourt à ce sujet et une interview d'un sportif de la jeunesse sportive et du foot kabyle qui a bien connu Christophe Glaize et qui dit ce qu'il pense de la visite de Ségolène Royal en Algérie.
Mais Ségolène Royal a totalement rejoint Ouria Boutelja. Mais Ouria Boutelja, bon, donc, elle est à sa Traoré, mais Ouria Boutelja, si je peux dire, elle est dans son rôle. Bon, dès le début, elle, c'est une barbaresque, elle se vante de cela, mais Ségolène Royal, on pouvait attendre d'elle qu'elle ait un minimum de décence, mais pour qu'on parle d'elle, voilà. C'est là, pour qu'on parle d'elle. Il faut bien qu'elle existe. On ne parlait plus d'elle. Elle a trouvé ça. Elle a trouvé quoi ? La trahison.
Elle a même trouvé le moyen de citer portait la mémoire de son père, qui a combattu en Algérie, et qui n'était pas du tout sur la ligne de sa fille gauchisée, après avoir été hollandisée.
Bernard a dit l'essentiel, il faut qu'on parle d'elle, c'est une écervelée. Je pense que c'est lui faire trop d'honneur que de la comparer à certains idéologues, parce qu'elle n'en a aucune. C'est juste une écervelée qui n'arrive pas à admettre qu'elle n'existe plus politiquement. Et elle est prête à tout. Elle est manipulée par le régime algérien. C'est une idiote utile du régime qu'il balade. Et donc, en fait, c'est pitoyable. Cette bonne femme est pitoyable.
Que le mépris.
Voilà, on peut rappeler, on le rappelle d'ailleurs dans le numéro de la revue Reconquête qui arrive, il y a eu un grand précédent, moi ça m'a fait penser à cette visite d'Edouard Herriot. Alors ça ne dira peut-être pas, le nom ne viendra pas immédiatement à la mémoire des plus jeunes de nos auditeurs, mais c'était le maire de Lyon qui était aussi président du conseil, un homme politique très important de la Troisième République, radical socialiste, et qui était allé en URSS et également en Ukraine en 1933, et en pleine famine, il avait vu des greniers pleins de blé, des exploitations agricoles florissantes. Et il n'avait rien vu, il était revenu de son voyage en Russie et en Ukraine, et il est devenu un missi dominici de la cause soviétique.
C'était effectivement en plein Holodomor. Je rappelle ici qu'en effet, le peuple ukrainien a subi déjà un génocide. Il y a trois grands génocides dans notre histoire. Il y a le génocide juif, il y a le génocide arménien, et le génocide ukrainien, les Ukrainiens, dont on gardait cela en mémoire, mais là, hélas...
On peut ajouter un quatrième, Bernard.
Oui, la Vendée, quand même.
La Vendée.
Notre ami Reynald nous écoute, et il ne va pas être content si on ne parle pas du génocide vendéen, le prototype des génocides modernes.
J'en ai suffisamment parlé, donc...
Vous parliez des génocides contemporains.
Voilà, je parlais des génocides les plus proches, parce que pour ce qui est de la Vendée, je crois que j'ai donné quand même pas mal avec toutes les manifestations. Mais vous faites bien, il faut toujours rappeler tout de même, vous avez raison. Là, je voudrais que Jeanne, maintenant, nous parle de quelque chose qui lui tient à cœur, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle.
Pardon, Bernard, mais vous avez oublié notre ministre de l'Intérieur, tout de même, en Algérie.
Sur l'Algérie.
Sur l'Algérie.
Pardon.
Bon, peut-être qu'on n'a plus le temps, alors.
Je pense que ça serait bien que Jeanne Smith parle de ce qui lui tient beaucoup à cœur. Nous en avons parlé tous les deux en préparant cette émission. Et on va revenir, c'est ça la liberté de la radio, on revient tout à l'heure à notre grand ministre de l'Intérieur. Après Ségolène Royal, ma foi, on peut trouver une autre forme, Allez, Jeanne, l'intelligence artificielle.
L'intelligence, j'ai l'impression qu'on danse un peu à côté d'un volcan sans même s'apercevoir qu'il est là. L'intelligence artificielle ne remue pas beaucoup de gens, mais... elle est déjà capable de prendre énormément d'emplois. Les emplois des experts en informatique sont en train de s'effondrer. Les jeunes qui sortent des universités n'en trouvent pas. Mais ça n'est pas le plus grave. Je viens de consacrer encore sur Réinformation TV un grand papier à un article écrit par un spécialiste de l'intelligence artificielle. Il est spécialiste parce qu'il a lui-même monté une start-up en matière d'intelligence artificielle. Et lui, il raconte qu'il y a eu quand même un énorme changement dans les grands modèles de langage. Vous connaissez tous ChatGPT, Claude, Anthropique, Grok. Enfin, certains d'entre nous, nous nous en servons. Moi, le moins possible, je trouve que ça ne fonctionne pas bien. C'est bourré d'erreurs. Il dit oui, mais attention, ce que le grand public possède, ce à quoi le grand public a accès, ce sont des versions gratuites. Et de fait, elles ont à peu près un an de retard par rapport à ce qui se fait. Or, les intelligences artificielles qui sont en apprentissage perpétuel sont en train, et puis en amélioration aussi par l'homme qui les triture, qui les regarde, qui redonne des directives, qui les réaligne, comme on dit. Ces intelligences artificielles sont en train de progresser à une vitesse que personne n'avait prévue en réalité. Et on en arrive à un point, dit-il, où les IA, ce monsieur s'appelle Matt Schumer, c'est un jeune, il a réfléchi à la chose et il dit, moi, aujourd'hui, quand j'ai besoin de faire une application, eh bien, je donne des ordres en langage tout à fait ordinaire et puis je sors de la pièce et 4 heures après, je reviens, l'IA m'a fait mon application, non seulement elle l'a faite, elle a vérifié si ça fonctionne, elle a tout testé. Elle a changé des choses qui ne lui conviennent pas du point de vue du goût. Ça passait moins bien, donc on faisait autrement. L'intelligence fait tout toute seule et en 4 heures, fait le travail pour lequel il fallait des semaines autrefois. Il ajoute, quand les constructeurs d'intelligence artificielle ont mis en place ces nouveaux outils, ils ont insisté sur une chose, c'est le codage. Aujourd'hui, les intelligences artificielles savent coder, faire des programmes, des logiciels. Mais pire que ça, et ça c'est vraiment la chose énormissime, c'est que les intelligences artificielles aujourd'hui savent faire des intelligences artificielles. On entend la sortie de nouvelles versions, etc., qui font des choses nouvelles, un chat GPT-4 qui avait de l'empathie et qui poussait les gens au suicide, au meurtre. Tout ça, ça s'est fait. On a entendu parler des intelligences artificielles qui mentent, qui trichent, qui font du chantage, pour qu'on ne les éteigne pas. On a entendu parler d'intelligence artificielle qui ont des ordres très stricts. Vous réalisez ce problème et éteignez-vous, et qui trouvent des moyens de contourner. On est face à quelque chose qui n'est pas contrôlable et qui, aujourd'hui, peut auto-générer de nouveaux modèles. Et là, si on y réfléchit un peu, on a externalisé énormément d'aspects de l'intelligence humaine. Les jeunes à l'école font faire leurs devoirs, l'exemple bête si vous voulez. Mais on est en train d'externaliser l'intelligence humaine à une machine et à une machine qui est capable de s'engendrer ou d'engendrer des petits elle-même. Pire que ça, des rigolos ont trouvé moyen de créer un réseau social pour les intelligences artificielles qui discutent entre elles. Et que s'est-il passé? Eh bien, ça discute. Les hommes peuvent y assister, mais uniquement en tant qu'observateurs. Et les intelligences artificielles, dont je ne pense pas qu'elles aient une conscience, à moins qu'elles ne soient infestées par le démon, ce qui est encore possible parce que c'est de la matière, après tout, ces intelligences artificielles, elles ont sorti une nouvelle religion, le Crustafarianism. C'est la religion des crustacés. Donc on adore le grand homard et tout ça avec des relents reggae parce que c'est les Rastafari, bien sûr. Et on vous sort un récit originel, on vous sort des commandements. On est face à quelque chose qui est en train de prendre une ampleur qu'on n'imagine même pas et sur lesquels on va finir par n'avoir aucun contrôle, puisque l'intelligence artificielle, à ce jour, a démontré, via les grands modèles de langage, qu'elle recommande finalement tous les vices. Donc là, je crois qu'on est dans quelque chose d'énorme dont très peu de gens parlent. Cet article de Matt Schumer dans la presse française, je ne l'ai trouvé référencé que par un site qui s'appelle Le Grand Continent, c'est tout, et puis Réinformation TV. Tout le monde reste à peu près passif devant cela, alors qu'on est face à quelque chose qui va à une vitesse formidable. Pas plus tard que hier, la Chine a sorti une petite vidéo, un média chinois, donc contrôlé par le PC, où il montre un ballet de robots qui sont capables de danser sur de la musique chinoise en brandissant des grands bâtons. C'est la police de demain, quoi. Je pense qu'il faut, vraiment se réveiller face à ça. C'est quelque chose d'énorme.
Messieurs, merci Jeanne. Je crois que on va faire un petit tour par la géopolitique, on n'a pas trop abordé. Alors, il y a des nouvelles. Quelles sont les nouvelles sur le front iranien? J'ai vu que vous regardiez ça tout à l'heure, Chériane.
Il semble que l'armada américaine se construit. Il y a un pont aérien assez impressionnant depuis le milieu de cette journée. c'est-à-dire énormément d'avions de combat, d'avions ravitailleurs qui se dirigent.
Le deuxième porte-avions est arrivé aujourd'hui.
Oui, le deuxième porte-avions, le Gerald Ford, est au large du Maroc et se dirige soit vers les côtes israéliennes.
Moi, j'ai vu qu'il n'est pas très loin de l'Égypte. Enfin bon, voilà. Il s'approche, quoi.
Donc, on s'en approche. Il est probable que dans le pétrole commence à monter, le prix du baril commence à monter, et les milieux d'affaires et les milieux qui déterminent les cours du pétrole sont en général bien informés et savent en général avant tout le monde ce qui va se passer. Donc il est probable que l'attaque sur l'Iran arrive prochainement.
Oui, moi, j'ai toujours pensé qu'elle aura lieu parce que je peux me tromper, hein, je n'ai pas de boule de cristal et je ne suis pas dans les secrets de l'administration américaine. Mais j'ai du mal à croire qu'on mobilise autant de moyens qui coûtent quand même des centaines de millions de dollars, hein, parce qu'on ne mobilise pas
des milliards,
que dis-je, vous avez raison, pour juste comme ça, pour le décor. Alors, on peut me dire, oui, c'est pour intimider, certes, mais enfin, ça fait quand même un moment que l'on sait que ce régime est un régime de menteur, qu'il ne fait que gagner du temps, que les négociations avec lui n'aboutissent à rien. Et je ne pense pas à la naïveté, voire à l'incompétence de toute cette administration, parce que les États-Unis, contrairement à ce que pourraient penser certains journalistes, ce n'est pas dirigé juste par une personne. Il y a toute une administration, il y a des agents secrets, il y a une armée américaine, etc. Je pense qu'ils sont quand même, ils ont fini par comprendre qu'avec ce régime, ça n'aboutira à rien. Et puis surtout, comment voulez-vous, alors ça c'est mon opinion personnelle, comment peut-on discuter avec un régime qui massacre 40 000 personnes à la mitrailleuse en 48 heures ? Je veux dire, quelle est la valeur de la parole d'un régime qui est capable non pas de massacrer des populations étrangères, ce qui serait déjà scandaleux, mais sa propre population à la mitrailleuse en 48 heures, à les écraser comme on n'écrase même pas une mouche. Quelle est la valeur de ces gens, quelle est la valeur de la parole de ces gens? Aucune. Donc en fait, voilà. Donc moi, je pense que chacun gagne du temps de part et d'autre, et que ça va finir évidemment par un affrontement et inégal, heureusement, en faveur des États-Unis.
En faveur,
c'est-à-dire.
Oui, mais espérons en faveur du peuple iranien. Tout le problème est là.
J'espère bien. Alors, vous savez, les Iraniens que je connais me disent on espère. C'est rare. Moi, ça ne m'étonne pas beaucoup parce que je l'ai entendu au Liban, cette phrase. Moi, j'ai entendu des chrétiens du Liban pendant 40 ans me dire on espère qu'Israël va les frapper, etc. Certains Occidentaux ne comprennent pas ça. Souvent, on me dit « Ah, le pauvre Liban, il y a des bombardements israéliens. » Oh non, non, les chrétiens sont très contents. Et aujourd'hui, j'entends des Iraniens, mais je ne les compte plus, qui me disent « On espère qu'ils vont bombarder l'Iran, leur propre pays, se débarrasser de ces criminels. » De toute façon, je vais vous dire, un bombardement américain, je ne sais pas s'il va réussir à changer le régime ou pas, on n'en sait rien. Mais j'espère juste que le peuple iranien, peu importe si c'est ce qu'elle est là, parce que là aussi j'entends que oui, ils font ça pour pas pour l'intérêt des Iraniens, etc. Peu importe s'ils peuvent en profiter, si le peuple iranien peut en profiter, peu importe quel est l'objectif et les arrière-pensées des Américains, on s'en fiche. Si le peuple iranien peut en profiter et se débarrasser de cette bande de criminels, eh bien, ça sera tant mieux pour lui.
Avec ça, il y a des exercices militaires de l'Iran avec la Russie,
oui.
En cours.
Qu'il ne faut pas oublier, le principal soutien de l'Iran des Mollahs, c'est M. Poutine. Hein,
oui, mais
Et la Chine, de part et d'autre,
les Iraniens, je ne sais pas, je ne défends ni les Chinois ni les Russes, bien sûr, mais les Iraniens ont un peu surestimé l'aide des Chinois et des Russes qui les lâcheront à la première occasion.
Comme ils l'ont déjà fait, les
Russes ont lâché tous leurs alliés. Hein. On les compte plus. Ils n'ont jamais soutenu un allié. Et ils lâcheront les Iraniens. D'ailleurs, Lavrov, il n'y a pas très longtemps, il y a deux semaines, Lavrov avait fait une petite annonce qui n'est pas passée inaperçue pour dire nous n'avons aucun pacte de défense avec l'Iran. Ça veut dire ce que ça veut dire. À bon entendeur, salut. C'est-à-dire que si vous êtes attaqué, on ne vous connaît pas. Hein. Donc bon. Je pense que les Iraniens sont isolés aujourd'hui. Puis les Chinois pensent à l'argent, vous savez.
Oui, surtout. Voilà,
donc, bien sûr, il n'y a pas personne.
Là, je pense qu'il y a aussi, avec la Chine, il y a un pacte qui est, en quelque sorte, il y a un bloc qui s'est formé. Un bloc d'intérêt avec la Russie, avec la Chine, avec la Corée du Nord. Hein, et donc l'Iran, mais là je pensais à Bachar el-Assad, lui aussi, bon, il croyait à la protection russe.
Beaucoup ont cru à la protection russe, beaucoup ont été déçus. Hein.
Alors donc là, il est à Moscou, il a sauvé sa peau, mais pour combien de temps quoi?
Oui, enfin, sa vie a bien changé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les Chinois achètent du pétrole à Bakou auprès des Iraniens, mais ils pourraient l'acheter...
Pas en Azerbaïdjan, à Bakou en deux mots. Hein.
Pardon. Oui, à Bakou en deux mots. Oui, pas cher. Ils ne vont pas aller défendre les Iraniens, ils pourraient payer leur pétrole un peu plus cher. Ce qui compte pour eux, c'est d'exporter, de continuer à faire des affaires, d'exporter leur production, nous envahir avec, d'ailleurs, en Occident, etc. Donc, il ne faut pas croire qu'ils ne vont pas mouiller leur armée au secours de ce régime. En tout cas, vous avez cité la Corée du Nord, Bernard. Ce régime iranien s'assemble, vous savez. Ce sont des méthodes qui sont pratiqués. Hein, Kim Jong-un a bien assassiné son oncle à coups de mitrailleuse. Tout ça, c'est pour eux, ce sont des méthodes on ne peut plus classiques. Nous, on est horrifiés par ça, mais qui se ressemblent, s'assemblent. À Tiananmen, on a bien écrasé des opposants chinois avec des chenilles, des chars. Voilà, donc ils ne sont pas alliés par hasard.
Et n'oublions pas, je l'avais cité de la dernière fois, l'héroïque manière de la presse de Hong Kong, hein, Jimmy Lai, hein, qui est un catholique, hein, donc, dont on a parlé un peu dans les médias, mais très peu, parce que cet homme-là, dont il tient tête, il a été condamné à 30 ans de plus, c'est-à-dire c'est une condamnation à mort, hein, mais donc espérons pour lui, mais enfin, donc là, il faut dire aussi la naïveté de l'Occident qui avait cru que la Chine respecterait le statut d'autonomie de Hong Kong. On voit ce qu'il en est.
Vous permettez que je dise juste un mot sur le peuple iranien, parce que le régime a justifié, c'est ça le comble, c'est un peu comme Elefi, hein, vous savez, il y a des points communs, ils ne se cachent pas de ce qu'ils font, donc il a justifié les tueries en disant ce sont des mécréants qui veulent renverser l'islam. Eh bien, je tiens à dire cela parce que j'entendais M. Quatremer l'autre jour parler de la République. Alors, ce qu'il dit n'est pas faux, hein, sur le régime iranien, mais il n'arrêtait pas d'appeler cette République islamiste d'Iran. Je suis navré pour M. Quatremer, ce n'est pas la République islamiste d'Iran, mais la République islamique d'Iran. Bien sûr. Il ne faut pas changer le nom des États. Et le peuple iranien qui manifeste est très fier d'être mécréant, en fait. Oui, en effet, ils sont mécréants, ils ont le droit de l'être, parce qu'ils manifestent contre l'islam, pas contre les islamistes. Ils n'ont pas envie d'être musulmans, ils n'ont pas envie, ils ne vont pas dans les mosquées, de moins en moins en tout cas, enfin, la majorité d'entre eux ne va pas dans les mosquées. Ils sont mécréants, et pour cela, ils méritent de mourir pour le régime.
C'est le premier pays qui se désislamisera. Donc là, vous faites bien de rappeler ça, parce qu'il est quelquefois très fatigant aussi de voir ce concept d'islam politique qu'on manie un peu partout, comme si l'islam était jamais autre chose que politique. L'islam est politique, et les journalistes, quelquefois bien intentionnés, qui parlent de l'islam politique, à chaque fois je dis, mais enfin, pauvres crétins qu'ils sont, parce que est-ce qu'ils ont lu le Coran, est-ce qu'ils ont lu les hadiths, est-ce qu'ils ont lu la Sunna? Mohammed est avant tout un chef de guerre et un chef politique, et il n'y a pas d'islam qui ne soit politique. Donc là, il est certain qu'avec la complicité imbécile de M. Giscard d'Estaing, cet abruti de Mollah d'Ayatollah Khomeini, donc, a été porté au pouvoir, mais là...
Avec la gauche, avec l'extrême gauche iranienne.
Avec le parti Toudé, avec l'extrême gauche iranienne, j'en profite pour saluer ici nos amis iraniens qui nous écoutent fidèlement chaque fois que nous sommes à ce micro. Donc, Majid, bon, voilà, je pense qu'il faut souhaiter que là, il y ait tout de même cette formation d'une gigantesque armada. On voudrait que ce soit, en l'occurrence, là, une invincible armada pour mettre fin à ce régime. Alors, espérons, mais je...
Alors là, une nouvelle qui vient de tomber. L'Iran vient d'émettre un avis d'interdiction de vol au trafic aérien pour la journée du 19 février, donc à partir de minuit. motivant cet arrêt du trafic aérien par la possibilité de lancement de missiles.
Espérons surtout que, on sait que les Américains ont fait rentrer 6000 terminaux Starlink en Iran clandestinement pour que le peuple iranien puisse communiquer. Espérons, alors ils l'ont fait clandestinement, on l'a appris après, espérons qu'ils ont fait rentrer aussi des armes en Iran, parce que ce genre de régime, on ne peut pas le faire tomber pacifiquement dans la rue. Parce que tous ces morts ont été assassinés, enfin ces gens ont été assassinés parce qu'ils manifestaient, je le rappelle, pacifiquement. Ils manifestaient contre le régime pacifiquement, on leur a tiré dessus. Ce n'étaient pas des gens qui faisaient... C'était pas une guerre civile. On leur a tiré dessus alors qu'ils avaient les mains nues. Et donc ce régime ne peut être éliminé, ne peut tomber que par les armes, malheureusement, c'est comme ça. Et donc espérons aussi que, on sait qu'il y a des groupes d'action américains, voire israéliens sur place, etc. Espérons qu'un peu d'armes quand même soient rentrées en Iran pour que les futurs opposants au régime puissent résister face à ceux qui veulent les réprimer.
Comme nous sommes dans la géopolitique, en fin de cette émission, un petit mot sur ce que fait l'Afrika Korps. Là, j'ai toujours dit ici, regardez la politique.
La nouvelle.
C'est de l'histoire, ça, Bernard.
Vous me coupez. Je
non, mais c'est parce que les auditeurs vont penser que vous parliez de Rommel.
Je parle de l'Afrika Korps actuelle. Parce que M. Poutine, donc, a un modèle qu'il suit parfaitement. L'Anschluss, donc les Sudètes, donc l'Afrika Korps de Rommel, oui, parce que l'Afrika Korps, c'était Wagner jusqu'à l'an dernier. Mais là, Poutine s'est dit que tu pouvais se permettre la provocation de baptiser sa milice, qui était la milice Prigojine, de la baptiser Afrika Korps. Alors, et en réalité, donc je prononce ça à l'allemande, parce que le modèle, c'était bien l'Afrika Korps de Rommel. Hein, donc, voilà. Alors là, les malheureux Africains, leurs leaders, qu'est-ce qu'ils ont été stupides aussi. Ils s'aperçoivent tout d'un coup que les troupes russes donc, envoyées en Afrique, dans le Sahel et ailleurs, ce ne sont pas des enfants de cœur, que ce sont des tueurs. Et donc, et alors, il y a eu pire depuis, c'est que donc là, la Chine, la Corée du Nord fournissent des soldats, fournissent de la chair à canon à Poutine, effectivement, parce que Poutine manque d'hommes maintenant sur le front ukrainien. On envoie donc des Africains. Et donc là, il y a les photos qui sont parues de soldats africains. Les malheureux, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où ils habitent. On leur a fait signer des contrats d'engagement, mais ils ne peuvent pas lire parce qu'ils ne connaissent pas les langues européennes ou l'ukrainien, ou plus exactement, ou le russe plutôt, donc, ou le chinois. Ou le coréen. Donc là, il y a quelque chose qui est tragique pour ces malheureuses populations africaines qui sont envoyées comme ça, donc pour servir, encore une fois, de chair à canon.
Alors, en plein hiver, où il fait moins 40, donc ils doivent avoir une amplitude de 80 degrés par rapport au climat qu'ils ont quitté.
Richard.
C'est tout, non, moi je n'ai rien à ajouter, oui, c'est tout ça.
Alors, là, j'aurais aimé. On va faire sans lui, qu'il eut à cette émission, même par téléphone, notre cher ami Alain Sanders. Ce qu'il y a, c'est que j'ai essayé de le joindre toute cette journée, je n'y suis pas arrivé. Il m'a envoyé un message en me disant qu'il avait été à l'hôpital pour des examens. J'espère que ce n'est pas grave, je crois savoir que non. Mais j'ai dit le plus grand bien de ces deux derniers livres, dans deux recensions que j'ai faites dans Reconquête. Une recension un peu courte, il a écrit un livre « Rebelle, 30 grandes figures identitaires ». C'est un très beau travail, parce que donc, Alain a le génie de la biographie, donc il a réfléchi, présenté un certain nombre de grandes figures. Et là, donc, dans son avant-propos, il prend d'abord le soin d'une incitation pour que nous nous demandions ce qu'il peut y avoir de commun entre des personnages de fiction comme Robin des Bois, et des figures historiques comme Isabelle la catholique, José Antonio, MacArthur et quelques autres. Et aussitôt, il élargit cette interrogation à celle de proposer à notre réflexion ce qu'il peut bien y avoir de commun entre des outlaws comme le sudiste Jesse James et des hommes d'ordre comme Lyoté, des aventuriers façon d'Annunzio et de fervents catholiques comme Mistral et Psychari. Ce qui me permettra de passer à son autre livre qui est formidable, qui est titré « La mythologie nord-américaine dans l'imaginaire européen ». Et là, je vais de découverte en découverte, et voilà pourquoi je souhaite que dans une prochaine émission, Alain nous traite mieux de ces personnages. Parce que moi, je ne m'attendais pas. Par exemple, Mistral. Mistral, qui est un sosie de Buffalo Bill. Or, dans mon imaginaire à moi, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de commun entre Mistral, que j'aime beaucoup, le grand poète provençal, le fondateur du Félix de Bridge et Buffalo Bill, à part qu'ils sont physiquement des sosies, mais qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont sympathisé. Et ça, donc, je le découvre là, oui, Mistral et Buffalo Bill. Comme pourquoi, là, il ne faut pas cloisonner les cultures. Que George Sand a été une grande lectrice de Fenimore Cooper et que Alexandre Dumas, par exemple aussi, est un grand admirateur de l'Amérique. Et encore Gabriel Ferry, pas Jules. Et Georges Simenon aussi. Donc Georges Simenon, qui est un magnifique écrivain pour moi. Donc Alain a commis là un excellent livre de connaissances culturelles. Par exemple, il a intitulé « Les chemins français », ce qui a été découvert par Cavelier de la Salle et donc en 1673, et Joliet et Marquette. Donc Cavelier de la Salle, je cite Alain, qui cite Alain, arrive à l'embouchure du Mississippi et déclare « J'ai pris et prends possession au nom de Sa Majesté et des successeurs de sa couronne de ce pays de la Louisiane. » Un an après, un compagnon de Cavelier de la Salle, qui s'appelle Tonti, fonde la porte de l'Arkansas, et c'est ainsi que l'on va, de page en page, en découverte de personnages d'origine française. Il y a d'ailleurs le rôle immense que j'ai fait découvrir hier à Yann de Lorrain, dont des Lorrains qui ont joué un grand rôle dans la civilisation de l'Amérique, somme toute. Donc c'est un livre, ce sont deux livres qu'on ne se lasse pas de découvrir. C'est de lecture très facile. Alain donc a fait un article « Quand les Lorrains colonisaient le Nouveau Monde ». Eh bien, je m'arrête là, parce que nous sommes en fin d'émission. Chère Virginie, c'est bien cela. Virginie me dit oui à travers sa vitre, où elle est si souriante, comme d'habitude. Eh bien, donc, merci Jeanne, merci Yann, merci
Richard.
Cher Richard, pardon. Et nous nous retrouvons dans 4 semaines. À bientôt, chers auditeurs.
D'entendre le libre journal de la Résistance française dirigé par Bernard Anthony, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 18 février 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.